Dans la suite de la préparation de notre démarche jubilaire dimanche 6 mars, donc je voudrais attirer votre attention sur un aspect plus particulier d'une année jubilaire. La dernière fois, nous avons parlé des œuvres de miséricorde à travers un diaporama aussi, des 14 œuvres de miséricorde. Aujourd'hui, je voudrais que nous essayions de faire un petit effort sur ce qu'on appelle l'indulgence plénière. Non pas les indulgences, comme on disait autrefois, mais je sais bien qu'il y a eu de graves déviances au XVIe siècle à ce sujet, qui ont provoqué en partie la question de la séparation de nos frères protestants. Et aujourd'hui, nous ne parlons plus des indulgences, de gagner des indulgences, nous parlons de l'indulgence au singulier. Voilà. Alors je vais faire à travers un petit diaporama, j'ai préparé, il paraît que c'est plus facile. Si les personnes ne voient pas de ce côté-ci, changez de côté, il y a des places de l'autre côté qui sont vides. Vous verrez mieux en vous mettant à gauche. Donc la toute première chose, c'est cet aspect, effectivement, l'indulgence au singulier. Et pendant une année jubilaire, elle est particulièrement ouverte. Il faut vraiment l'accueillir de façon plus profonde. Mais ça suppose certaines dispositions de notre part, la foi, le repentir sincère et aussi le désir de réparation. Donc accueillir l'indulgence au singulier, l'indulgence de Dieu, mais l'accueillir de deux façons complémentaires, à travers le pardon sacramentel des péchés, où Dieu pardonne l'offense envers lui, qui est contenue dans le mal accompli par mon péché, mais aussi à travers la réparation, Dieu m'aide à réparer les perturbations engendrées par le mal que j'ai accompli. Alors c'est tout l'aspect de pénitence, de sacrifice que l'on peut vivre dans sa vie, de charité que l'on peut déployer. C'est tout l'aspect aussi de l'accueil de l'indulgence. Et c'est ce qu'on appelle également le purgatoire. Donc vous voyez, c'est tout à fait fondamental cette diapositive. Deux façons complémentaires d'accueillir l'indulgence de Dieu. Le pardon de l'offense, c'est le sacrement de réconciliation, mais il reste aussi après la réparation des conséquences et des perturbations de mes péchés, et c'est l'effort de conversion que j'ai à vivre, comme Jésus a dit tout à l'heure, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Car le péché, même pardonné, laisse des traces, laisse des perturbations, des conséquences en nous, dans les autres, dans l'univers. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est pour ça qu'il y a des plumes. C'est parce qu'une pénitente allait comme ça voir Saint Philippe Néri, fondateur de l'oratoire au XVIIe siècle, je crois, et elle s'accusait de faire beaucoup de médisance. Et alors Philippe Néri lui dit, ma bonne dame, voilà ce que vous allez faire. Vous allez acheter une poule, mais une poule qui n'a pas été plumée. Ensuite, alors j'adapte, vous allez vous rendre de la chapelle Saint-Aubin à la Milesse, pas par la route centrale, mais par des petits sentiers de marche pédestre, et vous allez plumer la poule tranquillement depuis la chapelle jusqu'à la Milesse. Et puis, arrivé à la Milesse, vous allez faire le chemin en sens inverse et vous allez essayer de récupérer toutes les plumes que vous aurez. Alors, la bonne dame fait ce qu'il lui avait demandé. Elle est venue trouver après en lui disant, mais c'est pas possible, il y avait eu du vent, c'était tout envolé, j'aurais pu les... Et Saint Philippe Néri de lui dire, vous comprenez ce que c'est que votre médisance? C'est comme quand vous plumiez la poule et vous laissiez des plumes tout partout. Les médisances que vous lancez comme ça sont des plumes qui vont n'importe où après. Donc il y a des conséquences à tous nos péchés, si vous voulez. Il y a des perturbations engendrées par nos péchés. Vous pourrez télécharger le diaporama et regarder ça, mais vous savez comme moi que le mal que l'on commet a toujours des conséquences et laisse des perturbations. Et c'est important de le regarder et puis de se dire qu'on a à faire tout ce que nous pouvons pour réparer le mal que nous avons pu commettre. Alors, il faut distinguer le péché à pardonner ou pardonner, si vous voulez, par le pardon de Dieu, et le péché qui reste à réparer ou qui est réparé par notre propre conversion, mais aussi par l'aide que les autres peuvent nous apporter. Le sacrement de réconciliation ne supprime pas les conséquences de nos péchés, ni la nécessité de les réparer. Alors je sais qu'on n'en parle jamais, quasiment, c'est quelque chose qui est un peu absent de notre perspective, mais quel que soit le péché que je commets, un péché même caché, quand je m'en repens vraiment en demandant pardon dans le sacrement, il est pardonné, ça c'est sûr. Mais après le pardon reçu, il reste les conséquences à réparer. C'est d'ailleurs le sens de la pénitence que le prêtre donne à la fin du sacrement de réconciliation. Alors pas du genre, vous direz à notre père, à trois genoux, Salut Marie, c'est évidemment un peu facile. C'est pas ça la question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour réparer qu'est-ce que je peux faire qui soit vraiment dans le sens de la conversion et de la réparation. Nous sommes solidaires les uns des autres, même inconnus, solidaires de l'univers. Aucun péché n'est purement individuel. Il y a toujours un retentissement sur moi, sur les autres et sur l'univers. Aucune réparation n'est non plus individuelle, car il y a des tas de conséquences que je ne peux même plus réparer, évidemment. Donc je vais avoir besoin de l'aide des autres pour le faire. Quand nous paraîtrons devant Dieu, nous serons saisis par son amour et nous aurons la vision claire de tout le bien que nous avons fait et de ses ramifications et de tout le mal que nous aurons fait aussi et de leurs ramifications. Nous aurons la vision claire de tout cela, de toutes les plumes que nous avons laissées, dans un sens ou dans un autre, et qui sont tout le bien que nous avons fait, c'est merveilleux, et tout le petit que ça a pu faire autour, à la suite, mais aussi tout le mal que nous avons fait, et les conséquences, la suite, les ramifications. Et le bien, ce sera notre sainteté, notre poids de gloire, le mot gloire en hébreu veut dire poids. Et nous aurons aussi un vif désir de réparation du mal que nous avons fait, un vif désir de justice. Et c'est cela qu'on appelle le purgatoire. C'est-à-dire nous désirerons vraiment entrer dans l'amour de Dieu qui est saint, et nous ne pourrons plus rien faire pour y accéder, parce qu'il ne sera plus temps de se convertir. Nous ne pourrons plus rien faire, sinon de laisser l'amour de Dieu nous purifier, nous brûler, et aussi de laisser la prière de l'Église nous y aider. Très important. C'est pour ça que l'Église continue à prier pour tous les défunts. De laisser la prière de l'Église nous y aider. Mais nous ne pourrons plus rien faire par nous-mêmes, car notre vie sera close. Pendant une année comme le jubilé de la miséricorde, qui court jusqu'au 20 novembre 2016, l'Église nous propose un accueil plus grand de l'indulgence de Dieu. En nous convertissant nous-mêmes, en allant recevoir le sacrement du pardon, mais aussi en accueillant par la communion des saints une aide effective et efficace pour la réparation du mal. Vous direz, c'est assez bizarre, mais c'est ce qu'on appelle l'indulgence. L'Église décide de mettre à notre disposition la charité, la sainteté contenue dans la communion des saints et nous propose d'y puiser pour nous-mêmes et pour nos frères défunts. Donc, tout le trésor de charité qui est au cœur de l'Église est à notre disposition, par décision de l'Église. La charité vécue par tous les saints et tous les martyrs au cours de l'histoire, c'est un trésor plus grand que le mal accompli par tous les hommes de tous les temps au cours de l'histoire. C'est comme un trésor d'amour permettant une péréquation. Ça, c'est un mot qu'on connaît, qu'on est capable de comprendre. Eh bien, pendant la durée d'une année jubilaire, nous pouvons puiser dans ce trésor et recevoir ainsi la réparation des conséquences de nos péchés, une réparation qui sera compensée par la charité vécue par les saints. C'est la démarche jubilaire d'accueil de l'indulgence plénière. Et l'indulgence est reçue dans une démarche, soit une démarche qu'on fait tout seul, soit une démarche qu'on fait en groupe. Dimanche 6, nous la ferons en groupe. Et au cours de cette démarche, nous participons à deux sacrements. Le sacrement de réconciliation, c'est pour ça que je vous propose le jeudi 4 de participer à la célébration de la miséricorde à la couture. Et puis le sacrement de l'Eucharistie que nous vivrons le dimanche 6, le matin ici, dimanche prochain. Et cette démarche d'accueil de l'indulgence plénière est mise en forme par l'Église à chaque année jubilaire. Donc se confesser avant ou après, si on n'a pas eu le temps de le faire avant. Participer à l'Eucharistie le jour même, si possible dans le lieu jubilaire, mais ce n'est pas obligé, mais le jour même. Se rendre dans un lieu jubilaire, donc nous irons à la cathédrale qui est à côté, et là prendre un temps de prière aux intentions du pape, c'est-à-dire donc nous ouvrir à la communion ecclésiale. Participer à un temps de prière incluant le Notre Père, le Je crois en Dieu, le Je vous salue Marie. Participer à des vêpres ou participer à la déambulation à l'intérieur de la cathédrale qui sera balisée par le petit livret que nous regarderons mardi soir. Et puis, attaché à cette démarche aussi, vivre ensuite un acte de partage, de charité, de miséricorde. Comment est-ce que je suis sûr d'avoir reçu l'indulgence plénière? Eh bien, par la foi, si j'ai fait une démarche vraie, conforme à ce que l'Église propose, si je l'ai faite avec foi, avec désir, avec charité. Nous pouvons faire la démarche d'accueil de l'indulgence plénière pour nous-mêmes une seule fois au cours de l'année jubilaire. L'Église a dit une seule fois, voilà, pour éviter justement ces espèces de trucs mercantiles ou de déviance. À condition d'un repentir sincère, nous recevons la remise de ce que l'Église appelle la peine temporelle due au péché, peine temporelle opposée à peine éternelle, et nous sommes prêts à entrer au ciel quand nous avons fait cette démarche. Les théologiens disent que, vous regarderez ce texte, on n'a pas le temps de le lire, on est redevenu comme quelqu'un, un catéchumène par exemple, qui est baptisé le jour de son baptême, il est totalement lavé, totalement purifié. Nous pouvons faire cette démarche de demande de l'indulgence plénière pour des défunts autant de fois que nous le souhaitons dans l'année jubilaire. Et c'est une façon de les aider efficacement à recevoir la miséricorde divine à travers la mise en œuvre de la communion des saints par mode de suffrage. Donc nous leur transmettons en quelque sorte la possibilité d'accueillir l'indulgence plénière puisque ils ne peuvent pas le faire, comme je le disais tout à l'heure. Nous ne pouvons pas faire cette démarche pour des personnes de notre entourage sur la terre. Pourquoi ? Parce que la démarche d'accueil de l'indulgence plénière suppose la décision libre et volontaire de se repentir et de se convertir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas accueillir l'indulgence si on ne va pas recevoir le sacrement de réconciliation. Ça fait partie de la démarche. Il faut savoir aussi qu'une personne mourante peut toujours recevoir l'indulgence plénière, c'est prévu dans le rituel de l'onction des malades, en complément de la démarche du viatique, c'est-à-dire le fait de recevoir la communion, de se confesser et de recevoir l'onction des malades. Et le prêtre peut proclamer l'indulgence plénière pour cette personne. Je l'ai déjà fait plusieurs fois en assistant des mourants. Voilà quelques réflexions qui vous permettent de mieux comprendre ce que c'est que l'indulgence plénière, sa valeur,